Ce qu'on a prévu ce matin, c'est que on prenne bien le temps pour questionner un certain nombre de choses. Donc, soit questionner Guillaume sur des précisions, soit questionner son modèle, soit... Voilà, on reste pour l'instant dans le cadre de ça et on enchaînera après sur éventuellement d'autres usages, d'autres expériences.
Ma question porte en fait sur les représentations des stagiaires au sujet de la première heure de cours. Déjà, en fait, comment on fait pour recueillir l'idée que vraiment ils sont tous persuadés de cette idée superstitieuse, je dirais, et la présenter de façon très radicale, parce que c'est une idée qu'on connaît bien, mais est-ce que vraiment ils sont dans une telle radicalité, et ou est-ce que c'est simplement ils répètent des propos un peu de café du commerce, en somme, ou est-ce qu'ils y croient dur comme fer, d'une part, et puis d'autre part, alors si vraiment ils y croient dur comme fer, est-ce que tu as essayé d'explorer le sens, la logique interne de cette représentation, parce qu'il y a là quelque chose quand même à creuser, sûrement.
Je dois avouer que... Vous m'entendez là, oui ? Ça va ? J'ai l'impression de pas... C'est pas très fou. Ce point-là, ça a été une petite surprise, que ce soit avec Serge ou avec Luc. Ça a été quand même une petite surprise. Mais finalement, en discutant avec les formateurs de la maison, on s'est aperçu qu'ils véhiculaient cette même image et que
c'était quelque chose qu'ils avaient en eux, quoi. Ils ont donc c'est très fortement ancré chez les professeurs stagiaires parce qu'ils attendent beaucoup de ces premières situations, parce que c'est crucial pour eux. Ils ont l'impression que tout va se jouer là, parce qu'ils sont pas préparés aussi à ces situations-là et qu'ils découvrent tout sur le tas. Et les formateurs, en tout cas ceux à qui on a fait état de nos observations, on dit aussi qu'ils véhiculaient quelque chose de très fort sur cette première heure de cours. Donc j'ai envie de dire que c'est pas seulement... comment dire ça ? Je pense que c'est vraiment assez généralisé comme idée et que c'est assez fortement renforcé par la formation.
Oui, Guillaume, tu parles à la fin de ton exposé de se prémunir des découpages de l'évaluation par compétence ou de l'approche par compétence, je ne sais pas trop ce que tu as voulu préciser. Et tu peux revenir là-dessus, parce qu'il est largement instauré maintenant, y compris dans l'évaluation des professeurs stagiaires. Et est-ce que cette réponse peut m'éclairer, nous éclairer sur les choix des thèmes, à la fois ceux qui sont déjà dans Néopass en second degré ou ceux dont Patrick nous a parlé pour le premier degré?
Oui, mais par exemple...
Avant que tu répondes, ouais. Si je peux me permettre, par exemple, moi je connais un tout petit peu les dispositifs de formation qui sont en académie et je vois que plusieurs académies ont organisé des modules de formation par compétence. Donc il y a des formateurs qui font la compétence 1, des formateurs qui font la compétence 3. C'est-à-dire que dans une division du travail un peu organisée, puisque le jeune professeur d'école a 10 compétences à valoriser, l'ingénierie de formation dit il y a des groupes qui s'occupent de la compétence 1, des formateurs compétence 1, des formateurs compétence 4, etc. Ça paraît une organisation du travail rationnel qui peut éventuellement se discuter.
Oui, je pense que ta question elle est intéressante parce qu'on voit bien quel est le pari qui a été fait dans Néopass par exemple. C'est-à-dire que l'accueil, la mise au travail des élèves, les thématiques à venir, par exemple celui qui me concerne un petit peu plus, c'est les temps collectifs à la maternelle. C'est pas dans les compétences, dans les 10 compétences. Mais par contre, c'est quelque part très fort, c'est dans la tête des stagiaires. Et c'est dans leur quotidien. Et le pari qu'on a fait dans Néopass, c'est de se référer à ça. C'est-à-dire que l'objet que l'on va traiter, c'est ce qui pose problème aux débutants. Voilà. Après, que plusieurs compétences participent à régler ce problème-là, peut-être. Mais le découpage, en tout cas, d'un Néopass se fait par rapport à des problèmes typiques, la gestion des conflits, on aimerait bien faire une thématique sur la relation aux parents, par exemple. Sur l'évaluation. À voir. En tout cas, c'est à chaque fois, c'est pas des compétences, mais c'est des objets qui posent problème aux enseignants débutants. Et donc, du coup, toute la logique de la formation, elle est indexée à ça, quoi. L'entrée, elle est là. Oui, alors je ne sais pas dans quel sens. Oui, Luc.
Simplement, je voulais compléter pour repositionner ton exposé par rapport à un dispositif plus large qui est celui de l'UFM d'Auvergne sur une alternance entre de l'observation de vidéos en présentiel, en conférence au mois de novembre, et ensuite un stage en présentiel dans les établissements cristoliens avec les personnes qui ont été filmées, donc qui ont été présentées aux enseignants, professeurs stagiaires en novembre, et avec lesquels ils vont pouvoir travailler, avec lesquels ils vont pouvoir être dans les classes. Alors là, c'est assez intéressant parce que c'est une modalité qui permet à la fois de préparer l'observation, d'anticiper, de commencer à faire à perturber un peu leur propre façon de considérer ce que c'est que du chahut, à relativiser, pondérer, et ensuite on voit l'impact après d'un stage en immersion cristolienne par rapport au travail qui a été fait préalablement avec des vidéos. Et ce qui est assez intéressant, c'est que bon, il y a une sorte d'amorçage et de propension et de construction progressivement d'une grille d'observation, en tout cas des situations de classe, et que c'est un véritable, pour moi, travail propédeutique, ce travail initiatique de conférence, alors qui rassure, enfin j'ai un tableau sous les yeux quand même relativement les professeurs stagiaires, et tu as insisté sur le fait qu'ils voient que c'est pas perdu, que ça peut vraiment, dans ce genre d'établissement, on peut s'en sortir, en sachant que pour 70 ou 80% ils vont aller dans ce genre d'établissement. Et sur place, ça a beaucoup plus d'impact. En tout cas, il faut, là aussi, hein, je crois qu'entre de l'observation à distance sur vidéo, dans une sorte de fiction, et puis être vraiment dans les classes, partager des moments de classe avec les enseignants débutants, ça a pas du tout le même impact. Et on avait, avec Guillaume, travaillé sur la construction identitaire, sur l'observation participante, comparatiste, fictionnelle, et on voit en tout cas tous les effets bien plus conséquents de l'observation en présentiel, mais en sachant que la qualité même des registres d'observation et de leur capacité à construire des débriefings très fins à la sortie des classes, a été complètement préparé par la conférence et tout ce qui était en amont. On a écrit un article sur ce point avec Guillaume Serre et Serge Leblanc dans une très belle revue suisse des sciences de l'éducation, coordonnée par Daniel Périssé, qui est à la table à côté. Enfin bon, pour faire un peu de pub au niveau de la littérature, mais je crois que c'est intéressant de réfléchir un peu à ces dispositifs hybrides où on va observer dans différents temps. Les temporalités sont également hyper importantes. Quand les enseignants stagiaires arrivent dans l'amphithéâtre sans être prévenus au mois de novembre, ils n'ont aucune idée, ils ne sont pas préparés par rapport à ces vidéos, donc ça peut choquer, ça peut interpeller. Tout le travail du formateur, c'est d'arriver à créer cette présentation avec beaucoup de prudence, parce qu'on sait que, en tout cas on avait fait ça avec Serge et Guillaume, lorsqu'on met des échelles de confort-inconfort dans l'amphithéâtre, et qu'on montre une vidéo, on peut faire, c'est presque du stimulus-réponse, enfin, il faut être assez prudent par rapport à ce type de méthode, mais on sait que sur une vidéo comme celle de Séverine, qui est cette prof activité 2 dans Néopass, les enseignants débutants, enfin les professeurs stagiaires dans l'amphithéâtre sont entre moins 1 et moins 2 sur une échelle de moins 3 à plus 3, au moment où le formateur reprend la main. Ça veut dire que ils sont tous affectés. Alors, tu as parlé de compassion et d'empathie. On peut pas comme ça faire fi de cet état émotionnel et poursuivre comme si de rien n'était. Il y a tout un travail à faire. Je crois que le formateur a un rôle important pour réfléchir, montrer des espaces et en tout cas donner à son discours une teneur positive et des perspectives encourageantes. Parce que là, si on les laisse là, on peut faire fuir les personnes dans l'amphi, éventuellement. Donc tout le travail, et je crois qu'à la fin de la conférence, il faut que les jeunes enseignants voient réellement des pistes très concrètes et des perspectives optimistes. Mais effectivement, ces vidéos-là ont des impacts, et c'est à nous d'en mesurer la teneur.
Oui.
Juste 30 secondes. Ouais, il me semble que ce que tu dis, Luc, c'est inviter à réfléchir à la façon dont on enchasse quelque part un travail sur les vidéos dans une formation plus large. Donc c'est sûr que pour moi, on ne peut pas penser un dispositif sans penser l'ensemble de la formation qui est à côté. Et là, l'objectif pour nous, c'était d'anticiper ce stage à Créteil. Parce qu'on faisait le pari que les Clermontois ne savaient pas du tout à quoi ça ressemblait, qu'on préférait faire ce travail-là en amont avant de les amener dans les établissements. Et puis aussi parce qu'on n'avait pas les sous pour tous les amener dans des établissements. 110 professeurs stagiaires dans l'Académie de Créteil. Heureusement qu'on avait quelques camarades et quelques amis dans l'Académie de Créteil pour nous ouvrir les portes des établissements et accueillir à chaque fois ces stagiaires-là. Donc, oui, pour essayer de voir en quoi est-ce qu'on utilise ces dispositifs particuliers de travail à partir des vidéos, sans perdre de vue l'ensemble du dispositif de formation.
Oui, pour revenir un peu, je voulais déjà te remercier de ton exposé qui était vraiment très clair et très riche et qui, je trouve, éclaire vraiment cette question des usages de Néopass. Mais justement, je voudrais revenir sur ce que tu as dit à la fin sur l'enjeu du métier. Comment, parce que ça me semble tout à fait essentiel et j'aimerais bien que tu nous explicites un peu, que tu nous développes un peu des choses sur garder l'enjeu du métier.
Je veux bien faire ça. Ben, très clairement, je pense que ça va nous permettre de situer d'autres objets, pour moi, qui perdent l'enjeu du métier. Tenue de classe, pour moi, ça perd l'enjeu du métier. Voilà. Donc, puisqu'il fallait en parler, et puisque tu me donnes l'occasion de le faire, et que je m'autorise à le faire, pour moi, tenue de classe, on perd l'enjeu du métier. C'est-à-dire que on s'adresse plus à des enseignants, on s'adresse à des gens qui ont, à qui on dit que leur nouvelle fonction... ils n'ont pas été recrutés pour ça, c'est de tenir des classes. Et moi, pour moi, ça, c'est perdre l'enjeu du métier. C'est-à-dire qu'on transforme des enseignants en teneurs de classe. Voilà. Et donc, pour moi, l'enjeu de tout ce travail-là, que ce soit sur des dispositifs de formation en présentiel, à distance ou quoi que ce soit, c'est d'interroger la réduction que l'on opère dans l'activité. Est-ce qu'on peut réduire l'activité d'enseignement à la tenue de classe? Pour moi, la réponse, c'est non. Parce que on perd l'enjeu clé du métier. C'est plus le même métier dont on parle. Voilà. Donc, pour moi, l'effort qui est fait dans Néopass, c'est de prémunir par rapport à ça. De faire attention que les thématiques portent bien sur des éléments qui sont en jeu dans le métier. Et qui sont... Voilà, je pense que j'en dis un peu plus, oui. Encore, oui. Et bien, l'enjeu du métier, c'est ce qui fait le cœur du métier. Pour moi, j'ai l'impression parfois que lorsqu'on focalise la formation sur la tenue de classe, on perd toute une part de l'activité et on transforme le métier. Les deux doigts sur la table, c'est pour moi, c'est ça. C'est on transforme le métier.
C'est un conseil qui est donné dans le DVD tenue de classe.
Voilà, deux doigts sur la table et les élèves ne bougent plus d'un. Voilà, ça bouge plus. Donc, quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu? C'est que on voit, d'acheter la paix sociale ou d'enseigner, quoi, grosso modo. Enfin, moi, je vois les choses de cette façon-là. Oui, j'ai entendu. Ça va ou pas? Pour moi, c'est la question de la réduction. Ouais. Lorsqu'on utilise des vidéos, lorsqu'on utilise des grilles d'analyse pour analyser des vidéos, il faut se faire attention de garder l'enjeu du métier. Voilà. Est-ce qu'il est bon de travailler sur ces aspects-là sans considérer les apprentissages? Je finirai juste là-dessus en disant, en ressoulignant ce que Luc a lui-même dit hier, on s'aperçoit que ce qui est essentiel et premier, c'est dans cette idée de l'accueil et de l'accueil des élèves et de la mise au travail, c'est de les engager très vite sur des enjeux disciplinaires. Maxime qui commence dans le couloir. D'accord ? Maxime, il commence dans le couloir sur les enjeux disciplinaires. Et c'est Patrick hier aussi qui a dit que Elisabeth Bautier insistait aussi très fortement sur ces aspects-là, défendait ces aspects-là de faire de la discipline et du travail l'élément déclencheur pour engager les élèves dans une activité. D'ailleurs, moi, ce qui me fait parfois réagir, c'est le vocable. Parce que entrer en classe, entrer en cours, mise au travail, les mots ne sont pas tout à fait les mêmes. Et moi je suis assez sensible aux mots, et lorsqu'on dit tenir la classe, c'est encore autre chose. Mais entrer en classe, ça veut dire entrer dans un espace qu'on appelle la classe. Entrer en cours, ça veut dire que déjà dans cette classe, il y a un enjeu particulier qui est un cours, etc. Et mettre les élèves au travail, ça veut dire qu'on reconnaît que l'objectif, c'est bien le travail des élèves. Voilà. C'est pas de les faire rentrer dans la classe pour fermer la porte et faire en sorte qu'on ne voit pas ce qui se passe dedans, par exemple. Voilà. C'est ça pour moi l'enjeu du métier. C'est de pas faire rentrer les élèves dans la classe, de fermer la porte et de la rouvrir à la fin de l'heure. Voilà.
Oui, Guillaume, je voudrais tout d'abord souligner l'intérêt de ton intervention, et puis je trouve qu'il est quand même intéressant au mois de novembre d'avoir un tel recueil de données, alors que la mise en ligne des ressources date du mois de septembre seulement. Alors, je voudrais te faire quelques remarques, mais surtout apprendre avec beaucoup de pincettes, parce que je parle par l'entremise de mon cadre théorique et des travaux de mon équipe, et je pense qu'il faut que tu prennes beaucoup de distance avec les remarques que je vais te faire. Alors la première remarque, je vais revenir à la diapositive numéro 3 concernant les positions et peut-être les compromis que vous avez donc construits au sein de ou assumés par les formateurs. Voilà. Et donc à un moment donné, tu parles de priorité à l'activité, et j'aurais voulu savoir de quelle activité parles-tu. On est bien d'accord, tu parles de l'activité vécue par un autre père. Alors ça, c'est ma première remarque. Et la deuxième remarque, je voudrais également, puisque tu parles, puisqu'on a entendu également depuis hier, un concept très fort de développement professionnel, de dynamique professionnelle. Et donc là, je m'aperçois que, ou bien c'est un oubli, mais je ne pense pas, que tu mets de côté le positionnement de l'apprentissage vis-à-vis du développement. Voilà, donc je vais peut-être t'énoncer mes questions et peut-être... D'accord. Donc la troisième question porte sur, à un moment donné, tu dis qu'il existe deux approches différentes. Une approche de la formation qui consiste à montrer les bonnes pratiques, donc les pratiques d'experts. Et une deuxième approche qui consiste donc à montrer des enseignants en difficulté, en souffrance dans leur travail. Et je me demande, ça m'interroge le fait que tu cloisonnes comme ça, que tu marques la différence entre ces deux approches. Je me demande s'il n'est pas possible d'envisager une troisième approche qui consisterait bien sûr à articuler les deux.
Okay. Oui, vas-y, Patrick. Ah, pardon.
Et dernière remarque. Alors tu as mis en évidence, et je pense que tout le monde l'a bien compris, les effets qui sont très intéressants, les effets que tu as identifiés au cours du discours. Mmh. J'ai bien compris. Et donc Et je pense que c'est une limite à nos travaux de recherche. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me permets également de poser, de te faire cette remarque. Mmh. Est-ce qu'on ne pourrait pas pousser et approfondir cette idée d'effet, d'impact du dispositif, de l'usage d'un outil sur le développement professionnel des enseignants en s'intéressant à l'activité en classe? Oui. Que font les stagiaires de ces interprétations, de cet usage, de l'usage vidéo, etc., lorsqu'ils sont confrontés eux-mêmes en classe, face à des élèves, au métier. Okay. Voilà, merci.
J'y vais. Merci de me donner un peu plus de temps pour expliquer tout ça. Enfin, ça va un peu vite, j'en ai conscience. Mais pour moi, quand je dis priorité à l'activité, c'est grosso modo de dire qu'on s'inscrit dans une perspective socio-constructiviste, en disant que l'activité, c'est quelque chose qui est au centre, qui est premier. L'action. Et il me semble que j'ai marqué priorité à l'activité parce que notre sensibilité, que ce soit Luc, que ce soit Serge ou que ce soit moi, c'est une activité qui est quand même colorée en action. Donc je ne voudrais pas rentrer dans des débats trop théoriques, mais il me semble que ce soit Serge, que ce soit Luc ou que ce soit moi, on apporte une attention particulière au fait que l'activité elle s'accompagne d'un vécu, d'une expérience, d'affect, d'émotion, de sentiment. Et il me semble que tout le travail qui est fait sur la première thématique par Luc, qui a fait une thèse sur les émotions des enseignants débutants, au passage, enfin, tout est quand même assez relié, c'est quelque part donc attirer l'attention sur ces phénomènes-là. Mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ce que je mets derrière activité ici. Je pense que là, c'est vraiment l'idée de dire, en tant que formateur, ce qui m'intéresse, c'est de mettre au centre ce qui est fait et la façon dont c'est vécu. Donc, c'est de montrer des comportements sur des vidéos et de montrer le vécu qui est associé à ces comportements. Tu vois, c'est à ce niveau-là. On n'est pas à un niveau théorique ici, hein. C'est un dispositif de formation. Alors, ces principes, j'ai envie de dire, c'est des principes pédagogiques d'un formateur. Ils sont quelque part dépendants d'une sensibilité théorique ou quoi que ce soit, mais c'est des principes de formation. Pour moi, le développement professionnel ici, c'est quelque part limité ce que j'ai dit très vite, hein, c'est l'aspect renormalisation. Voilà, pas plus, en tout cas. C'est l'idée que... Je m'en tiendrai là. Je sais que c'est pas du tout suffisant. Je sais que apprentissage, développement, la distinction, elle est pas suffisamment détaillée pour qu'on puisse discuter plus là-dessus. Et sur sur ta remarque sur ma façon caricaturale de montrer qu'il y a deux approches extrêmes de la formation. Une qui consiste à travailler sur le capital des savoirs experts et l'autre qui s'intéresse à l'activité débutante. C'est, je dis ça en relation avec ce que Françoise Lahaut et Paul Olry ont mis en évidence sur les formations d'adultes en général. On s'aperçoit qu'on est plus souvent du côté du capital de savoir qu'on essaye de transférer vers les novices plutôt que dans une démarche où on définirait en positif l'activité des débutants. Voilà, c'est pour montrer ces deux démarches. Mais ça ne veut pas dire que... Enfin, je suis d'accord avec toi que l'intérêt, il est de travailler sur l'articulation entre ces deux approches caricaturales de la formation, pour moi.
Deux, trois remarques, moi, sur comment ça chemine par rapport à l'ingénierie de formation qu'on a prévue pour vous et comment on va arriver presque à la moitié dans une heure et demie. Et donc... les questions qui sortent dans ma tête, qui étaient un peu celles qu'on avait anticipées, c'est effectivement problème de formateur, problème théorique. On a des choses qui sont de ces deux ordres. Et je suis pas sûr que ça vaille pas le coup de creuser un peu plus en quoi il peut y avoir derrière les mots comme activité... des controverses qui soient intéressantes un peu à creuser. quand tu as souligné, par exemple, dans ton modèle, l'importance de l'appui, non seulement sur ce qui se passe, mais sur ce qu'on appelle vécu, l'autoconf simple. Et on voit bien que là, il y a des choses qui se passent. Cette idée du développement, on voit bien que ça peut être... c'est un mot, quoi. On peut le garder comme un mot. Ou on peut creuser un petit peu plus ce qu'il y a derrière le développement. C'est vrai qu'on a tous des lectures de Vygotsky, mais peut-être qu'elles sont... Alors ça ne veut pas dire que c'est l'unique activité. Hein. Après, dans l'autre face de ce qui s'échange, là, je vois quelque chose, moi, dilemme de métier ou dilemme de débutant ? Est-ce que ce qui est à l'œuvre, c'est des questions de débutant ou est-ce que c'est des questions de métier ? Et donc, derrière, du coup, est-ce que former des débutants, ça doit être former des débutants entre eux ou former des débutants aussi au contact de plus chevronnés ? Dans les ingénieries de formation qu'on a à développer, moi, mon expérience, c'est plutôt que, comme tu viens de le dire, il y a besoin de valoriser les savoirs et l'attention sur où en sont les débutants, quelles sont leurs logiques d'activité temporaire, comment ça se renormalise, etc. Mais on gagne beaucoup à les confronter. Alors finalement, ces dilemmes que vous avez dans vos classes de débutants, comment les chevronnés les gagnent ? Et c'est pas pour rien si dans Néopass, il y a non seulement l'activité des débutants, l'activité des autres débutants qui discutent, mais aussi l'activité des chevronnés. Et vous avez remarqué que, pour des raisons un peu conjoncturelles, l'activité des chevronnés, quand ils discutent, ils sont à plusieurs dans Néopass. Mmh. On leur fait pas regarder, comme on a fait avec les débutants, la vidéo tout seul. On les met à plusieurs et ils discutent à plusieurs. Alors finalement, nous, en tant qu'experts, en tant que chevronnés, ces problèmes de débutants, comment on les regarde ? Et ils disent beaucoup que les problèmes qu'ils voient à l'œuvre avec les débutants, ils traversent toujours leur métier. Et là, on retombe sur notre logique de métier. C'est-à-dire, c'est bien ça, la complexité du métier. Peut-être qu'il y a un petit modèle qu'on pourrait vous proposer, que moi, personnellement, j'aime bien. C'est le modèle de Rochex et Kéroubi sur les quatre grandes tensions qui ont à gérer les enseignants en milieu difficile. Et je trouve que c'est quelque chose qui peut-être serait nécessaire qu'on essaye de gratter aussi dans ce qui nous reste comme temps. C'était mes petites réflexions de mi-parcours sur là où on en est. Tu continues ?
Bonjour Guillaume. Donc comme d'habitude, toi, sans pas obligé de répondre à une question que je t'aurais jamais posée dans les... dans les minutes qui viennent. Bon, déjà, je trouve extrêmement intéressant, bien évidemment, par rapport à ce que nous essayons de faire aussi sur Nice, c'est de, au travers de l'exemple de ta présentation, c'est de mettre en exergue cette mise en abîme d'une situation de recherche devenant objet de travail et d'analyse en formation, mais qui repose sur l'hypothèse d'une proximité du vécu, d'une mise en rapport et d'un lien entre ce que je vois et ce que cela suscite en moi, au regard des points communs ou des divergences inhérents à mon propre vécu de la classe. Donc j'aimerais avoir ton avis sur le questionnement suivant et sur des pistes qui peut-être nous sont communes dans la mesure où tous les deux nous sommes des responsables d'offres de master encore portées par les IUFM. Voici mon interrogation. Dans le cadre des masters, comment préoccuper des étudiants qui n'ont pas encore d'expérience et talent de l'exercice du métier et les fonctionnaires stagiaires en début d'année au travers d'une sorte de trousse de secours avant la prise de fonction, mais qui ne soit pas seulement une bouée de sauvetage didactique ou un rappel des injonctions officielles. Voici donc ma question. Mmh. As-tu connaissance, tentez-vous dans votre IUFM des modalités d'ingénierie permettant une acculturation visuelle ? Parce que je pense que c'est aussi une des finalités de Néopass. Et un ancrage sur les stages d'observation et de pratique accompagnées ? Si oui, peut-on en discuter dans les ateliers de cet après-midi afin d'échanger sur comment coupler Néopass à d'autres ressources pour une analyse de la pratique et une analyse de l'activité, afin, 1, de dépasser la simple mise en stage, 2, en faire le vecteur d'une formation prévention, et là je mets les guillemets exprès, aux situations d'inconfort professionnel et de mise à mal des formes scolaires, pour reprendre finalement les deux présentations d'hier. Voilà.
Okay. Merci.
François, si tu mettras avec elle.
Je pense que...
Tu mettras avec elle.
Je pense que tu soulèves un point essentiel par rapport à la transformation de notre formation. On avait affaire à des professeurs stagiaires. on a maintenant affaire à des étudiants. Alors, la première différence, c'est qu'ils sont plus payés. Mais ça, à la limite, ça les embête eux, mais nous aussi, mais pour eux. Mais ça nous pose des problèmes de formation. C'est-à-dire qu'avant, on avait des professeurs stagiaires qui arrivaient avec un vécu des situations de classe. Et lorsqu'on proposait de faire de l'analyse de pratique, on avait ce vécu comme point d'appui. Ils avaient expérimenté des choses. Ils avaient, ils s'étaient plus ou moins brûlés, ou plus ou moins frottés, on va dire, aux situations de classe. Et quand on leur parlait, quand on essayait de travailler avec eux sur certains aspects, on avait cette expérience à mettre en regard. C'est ce que tu dis. Maintenant, on l'a plus comme on l'avait avant. Pour moi, il y a des avantages et des inconvénients. En tout cas, c'est ce que je m'efforce de faire dans le contexte actuel de réforme, de voir des avantages. Je me disais qu'avant, ces professeurs stagiaires, ils étaient quand même bien exposés et qu'en formation, on passait notre temps à réparer. On essayait de réparer ce qui s'était produit sur le terrain de stage. On faisait de l'analyse de pratique en commençant par la question « qu'est-ce qui vous a posé problème ?» On ne disait pas « qu'est-ce que vous avez réussi ?» On disait « qu'est-ce qui vous a posé problème ?» Et on essayait de réparer ces problèmes-là. Il me semble que le fait d'avoir des périodes de stage qui sont quelque part un peu moins importantes au cours du master permet de préparer plus que de réparer. Dans une certaine mesure, bien sûr, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire ça, et que c'est pour ça qu'on a besoin de développer des outils à distance pour augmenter la quantité de temps de travail des jeunes étudiants sur ces questions professionnelles qu'ils doivent quelque part, auxquelles ils doivent se confronter avant même de les avoir expérimentées, vécues, éprouvées. Donc, ben, par exemple, j'ai envie de répondre à ta question, non pas en tant que responsable d'un master, mais en tant que formateur qui réfléchit à ces questions-là, parce que je suis pas responsable du master métier de l'enseignement, mais d'un autre. Mais il me semble que ce qu'on essaye de faire, c'est de commencer très tôt à les sensibiliser à ça. Par exemple, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à travailler ça en pré-pro avec eux. Donc en pré-pro, on travaille avec des vidéos, avec des jeunes qui se destinent au métier de l'enseignement. Ils prennent des UE en option sur la préparation, sensibilisation au métier de l'enseignement. Et on travaille avec eux à partir de vidéos. Et vous allez dire que je suis un original, mais on les fait travailler à partir du modèle de Dominique Bucheton, encore une fois. Et en espérant qu'ils aient vu au moins une fois ce modèle pour questionner l'activité. Parce que quand on travaille en pré-pro avec eux, on a très peu de temps. Et que ce modèle-là, il est bien pratique pour ça. Et on essaye de les confronter à des situations de classe, et comme on ne peut pas les préparer à faire la classe, on essaye de les préparer à analyser l'activité d'un autre en train de faire la classe. Donc voilà ce qu'on s'efforce de faire. On essaye de travailler sur ce qui va préparer l'action, sur les phases de conception de l'action, qui nous semble avoir été peut-être mise de côté un petit peu plus lorsqu'on se disait que le problème, c'était quelque part ce qui se passait au cours de la réalisation de l'action. Lorsqu'on faisait de l'analyse de pratique, quand on fait de l'analyse de pratique, on n'a pas tendance à demander aux étudiants qu'est-ce qui leur a posé problème au moment de la conception de la leçon. On a tendance à leur dire qu'est-ce qui vous a posé problème face aux élèves pendant la réalisation de la leçon. Donc on essaye de se prémunir de ça, du fait qu'ils n'ont pas de vécu de la classe, en travaillant, en insistant sur les temps de préparation. Ça, ils peuvent préparer des classes, ils peuvent préparer des leçons, ils peuvent préparer des choses, on peut en discuter, on peut analyser ça, et on peut préparer avec eux des scénarios qui tiennent. C'est-à-dire que le jour où ils vont essayer de réaliser le scénario, eh bien, on sait qu'ils auront toutes les chances de le réussir, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui peut marcher. Ça peut leur être un scénario possible de classe.
Françoise pourra parler peut-être tout à l'heure de ce qu'on fait à Lyon 2 sur l'analyse du travail, mais c'est Luc qui était inscrit.
Oui, enfin, oula, pardon. Deux remarques décalées parce qu'il y a eu des tours de table. Deux points, je voudrais revenir sur tenue de classe parce que je suis pas d'accord avec Guillaume, et il le sait. Et ensuite, sur la notion de transposition par rapport à la généricité même du très rapidement. Je pense qu'il peut y avoir un malentendu par rapport à tenue de classe et je partage pas complètement le point de vue de Guillaume, il le sait. Parce que il y a un amalgame actuellement entre tenue de classe dans un registre politique et sécuritaire qu'on ne partage absolument pas, ni Guillaume ni moi, et en tout cas une bonne partie des gens qui sont là, en tout cas sur les chercheurs qui ont travaillé avec nous, par rapport au fait que préparer au métier, c'est pas préparer à tenir des classes, mais c'est préparer à transmettre, et il y a des enjeux forts par rapport à la transmission et l'apprentissage. Là-dessus, on est vraiment très d'accord sur ce point-là. Et il y a une sorte de, peut-être de spectre très effrayant de voir qu'on va être, on va tenir des classes, on doit être amené à tenir des classes. Malgré tout, si on repère avec Patrick notre expérience avec cette jeune prof de maths que vous avez vue hier, qui était dans une sorte de panoptique avec des attitudes de surcompensation paroxystique pour pouvoir tenir la classe. Et vous avez vu quels effets ça peut générer sur les élèves et sur nous-mêmes. Nous étions à l'arrière de la classe avec les paupières fermées, closes, quasiment incapables de la regarder tellement on était tenus. On voit une forme exacerbée de trouille au ventre, viscérale, de ne pas pouvoir tenir la classe. Et c'est lié à son expérience. Alors si on part sur des discours assez conceptuels sur ce que c'est que l'idéal du métier, on refait une formation prescriptive par rapport aux enseignants débutants et on ne part pas de leur trouillomètre, de leur phénomène vécu expérientiel. Et quand ces jeunes profs, notamment sur débutants dans ce genre d'académie et dans ces établissements un peu hétérogènes, si on part pas d'eux, si on fait un site ou un dispositif de formation qui part pas directement de ces phénomènes vécus, on va passer à côté et eux vont nous dire non, vous nous racontez le métier idéal. Nous, c'est à partir de ce point-là qu'on veut éventuellement comprendre que les savoirs sont peut-être les meilleurs vecteurs pour pouvoir éviter de faire de la tenue de classe autre chose que simplement cette version très rigide et terroriste. Donc je crois qu'il faut être assez... Enfin, il me semble que le point clé pour moi, c'est de considérer que la ressource qu'on construit, elle part des débutants, elle est en prise directe avec éventuellement ces phénomènes émotionnels forts, et que si on les ignore, parce que leur préoccupation première pour eux, c'est quand même de tenir les classes. Même s'il faut convertir cette préoccupation-là et leur faire comprendre que les espaces possibles pour tenir la classe, ce ne sont pas forcément ceux qu'ils envisagent dans un premier temps. Je clôt la parenthèse. Le deuxième point, c'est cette...
Je crois qu'on n'est toujours pas d'accord, mais tant mieux, j'ai envie de dire.
Oui,
mais c'est pas grave.
Non, non. Pourquoi, Guillaume ?
Ben non, mais oui, enfin, je pense que je suis d'accord avec toi pour partir. Enfin, je pense que soit tu m'as pas écouté, ce qui est possible, mais j'ai jamais dit que. Enfin, je pense que j'ai passé assez de temps à dire que ce qu'on essayait de faire dans cette plateforme, c'est de partir de ce qu'ils vivaient, de ce qu'ils ressentaient, des problèmes qui se posaient. Mais je partage pas ton analyse sur tenue de classe, c'est tout. Mais,
ouais, mais
voilà. Mais après, c'est peut-être que des mots, je sais pas.
Il y a une réaction sur le même sujet, c'est ça ? Non.
Non, mais c'est peut-être pas l'enjeu.
Non, peu importe.
Pour moi, l'enjeu en tout cas essentiel à tenir ici, les récupérations politiques, elles sont ce qu'elles sont. Mais en tout cas, ici, on a des problèmes de formation. Et moi, ce que je crains très fortement, c'est que sans s'en apercevoir, on devienne des experts de la formation à la tenue de classe. Quoi. C'est-à-dire qu'on dise aux gens, il suffit d'allumer, de claquer la porte pour que les élèves se taisent. Voilà. Ouais. Ouais. Puis un petit exemple tout simple. Moi, je suis juste pour faire écho à ce qu'a fait Patrick hier. On voit que dans la proposition que nous fait Patrick hier sur les passages à risque, il y a toute une théorisation. Du discours horizontal vertical. Il y a toute une histoire de l'école qui vient pour expliquer les situations, pour expliquer leur évolution, pour expliquer les aléas par moment, etc. Dans ce qu'on nous propose dans tenue de classe, qu'est-ce qu'on voit ? Quelle est la théorie qui est sous-jacente ? C'est la théorie d'un individu, monsieur Claire. Je suis pas persuadé que ce monsieur-là soit... Enfin, je le connais pas personnellement. Je pense que c'est un bon prof. Mais je préfère... quelque part me référer à ces éléments de savoir sur l'histoire de l'école et son évolution que sur ce qu'un individu développe dans son coin pour en faire un outil pour tout le monde. Voilà. Donc pour moi, c'est aussi se poser cette question-là en tant que formateur. Quels sont les outils, quels sont les éléments sur lesquels on se base pour faire parler ces vidéos, pour les rendre intelligibles, pour les problématiser. Est-ce qu'on mobilise ses propres façons de faire, deux doigts sur la table pour expliquer ce qui fait qu'une situation marche ou ne marche pas, ou est-ce qu'on mobilise des éléments d'explication qui peuvent venir de la sociologie, de la psychologie, de l'analyse du travail, de l'analyse de ce qu'on veut. Pour moi, l'intérêt, il est de croiser les regards, d'aller chercher un petit peu en sociologie, un petit peu en analyse du travail, etc., pour pouvoir expliquer ces situations de classe, et non pas se référer à des théories personnelles de ce qui marche ou ce qui ne marche pas.
Oui, enfin, simplement par rapport à tenue de classe, il faut qu'on soit prudent, parce que c'est pas du tout le travail de Sébastien Clerc, c'est-à-dire que Sébastien Clerc a été au départ sur la version de Créteil, mais ça a été largement redéveloppé, masterisé, et en tout cas, il y a beaucoup d'autres personnes qui interviennent. Donc il y a cet effet clair, mais à mon avis, il faut aussi qu'on soit prudent par rapport à ça. Et je crois qu'il faut qu'on s'accorde aussi à être vigilant par rapport aux critiques qu'on peut énoncer. Si les gens font une critique de Néopass en ayant vu trois images très rapidement sur France 2, ils peuvent être assez corrosifs envers le travail. Si on n'a pas nous-mêmes fait un travail de compréhension de l'ensemble de la plateforme de tenue de classe, il faut qu'on soit aussi assez prudent. Enfin, moi le premier. Hein.
Il faut écrire des articles sur Néopass, expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'on pense que c'est différent du bouquin de Monsieur Clerc qui nous explique sa façon de faire la classe.
Entièrement.
Moi, je suis prêt pour. Je pense que c'est ce qu'on a à faire, à montrer dans le petit onglet recherche comment la recherche participe à étayer tout ça. Et on va pas vendre un bouquin pour expliquer tout ça.
Le deuxième point, pour sortir de la polémique, mais il fallait vous réveiller un peu ce matin. Le deuxième point, c'est cette capacité à transposer ou non des étudiants. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez fort de voir des. En tout cas, c'est une remarque de Françoise Carreau hier en disant ouais, mais ce premier thème est quand même très cristolien. Il faudra quand même, bien sûr, montrer d'autres métiers ou en tout cas d'autres contextes où le métier se déploie différemment. Et là, c'est assez étonnant de voir que des gens du premier degré trouve très intéressant au contraire d'aller voir une pratique dans le second degré avec ce décalage, et ce voyage est pour eux quelque chose de très bénéfique, même s'ils ne sont pas stricto sensu sur les pratiques de classe. C'est la différence entre le faire cours et faire classe que tout le monde connaît par cœur. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que parfois, j'ai eu des fois cette anecdote qui m'a assez marqué, c'est d'avoir un prof stagiaire qui se lève à un moment donné en disant « Monsieur Ria, vous me fatiguez ». Parce qu'il aurait dû le lire depuis longtemps. Et surtout, c'est parce qu'il était avec des élèves de seconde dans un lycée. Il disait, vous nous montrez toujours du collège. Et moi, ça ne me parle pas du tout, mais pas du tout. Alors que bon, ses collègues autour écarquillaient des grands yeux. Parce qu'ils ne se retrouvaient pas et n'arrivaient pas du tout à transposer. Donc, ils fermaient les yeux et ils vivaient très mal ces longues séances d'analyse de pratique. Et puis, au même moment, il y a une sage-femme qui est en observation à l'UFM de Clermont qui se lève et dit, écoutez, monsieur Ria, toutes les séquences me parlent vraiment énormément par rapport à mon métier. Et là, je crois que c'est une propension que les gens n'ont pas, forcément de façon égale. Je crois qu'il faut qu'on arrive en tout cas à créer ces décalages-là, à faire en sorte de créer des situations, resituations. On fait de la formation de formateurs avec, par exemple, j'ai animé des situations avec les meilleurs arbitres internationaux français en basket, rugby, etc., en partant de Néopass. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai rien à faire là. Et pour eux, leur métier était exactement le même que cette situation-là. Prendre des décisions dans l'urgence, composer, faire des regards noirs. Enfin, c'était pour eux exactement dans cette interaction scolaire. Ils se retrouvaient dans des interactions sportives avec vraiment les mêmes enjeux, si ce n'est la pression supplémentaire peut-être d'un arbitrage de haut niveau. Des choses comme ça. On peut travailler également sur le travail social. On peut travailler sur plein de métiers et s'apercevoir qu'il y a cette dynamique de transformation des situations professionnelles et que beaucoup s'y repèrent, en tout cas. Témoignage.
Oui, Luc, je ne ferai pas un commentaire sur tenue de mêlée et tenue de classe, mais bon, on pourrait le faire en coulisses. Je voulais juste réagir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure en bilan de mi-parcours et rajouter un petit peu ma pierre à l'édifice, un peu comme je l'ai fait hier. J'assume le fait d'être le représentant non, enfin je représente que moi-même, mais de parler toujours au nom des sans-abri, les premiers degrés, mais aussi
mais là
en l'occurrence c'est parler de en termes de mi-parcours de cette notion de continuum de formation. Il y a des gens qui ont beaucoup intervenu sur les masters et sur l'utilisation de Neopass éventuellement dans la formation pour prévenir les choses, ça vient d'être dit. Faut pas oublier quand même qu'avec la réforme de la formation, on a depuis septembre là des collègues qui sont dans les classes et qui vivent une réalité qui va être de plus en plus décalée avec ce qu'on a connu avec les formations UFM, et qu'à un moment donné, l'utilisation du Neopass va devenir un outil, à mon avis, non seulement dans le continuum, mais aussi dans la perspective de cette année de formation stagiaire. Donc ça m'intéresserait beaucoup de réfléchir cet après-midi sur une ingénierie de formation à destination de cette tranche de population qui va être de plus en plus en développement. Enfin, en développement, c'est pas trop le terme.
Pour redire aussi des petites références, des petites incises qu'on a fait en aparté avec les uns ou les autres depuis ce matin, dans la suite de ce que vient de dire le collègue, travailler avec ces débutants PE comme PLC, c'est travailler sur la formation de formateurs en même temps. C'est-à-dire que, pour moi, la bonne ingénierie de formation, j'en cite juste une comme ça, mais on en anime un certain nombre avec un certain nombre de départements. Premier, second degré, lycée professionnel. Il y a des gens ici qui sont du lycée professionnel, qui sont traversés par les questions de l'aide, etc. Et comme on a aussi en tête ce qui va être fait avec Christine sur l'aide, Christine Félix, le bon modèle, ça me semble être un modèle dans lequel on va travailler sous l'impulsion des autorités académiques, parce qu'il ne peut pas y avoir du travail clandestin sur cette question-là, avec les métiers intermédiaires, que sont, alors dans le premier degré, les IMF, les conseillers pédagogiques, voire les tuteurs, ça dépend des organisations départementales, plus éventuellement les IEN, sur qu'est-ce que cette nouvelle formation elle réorganise de votre propre activité de formateur. En quoi vous vous retrouvez à réinterroger des vieux débats de métiers de formateur, de conseiller, etc. Et donc de faire un travail accompagné sur l'année avec N sessions de formation en présentiel avec des formateurs dans le département qui vont travailler sur leur propre activité avec les débutants. Et on va faire un travail en va-et-vient. Et là, le travail de production de ressources, il peut être à la fois d'aller filmer des néos, mais aussi d'aller filmer des entretiens et de travailler avec les formateurs sur qu'est-ce que ça nous demande de conduire ces entretiens formatifs, voire qu'est-ce que ça nous demande de mener des situations de formation quand on est conseiller pédagogique. Donc ce travail à deux niveaux, pour moi, il est quelque chose qui est prometteur avec les ressources de Neopass, parce que pour l'avoir fait, quand on le construit à blanc avec un département, c'est extrêmement gourmand en temps et en activité, s'il faut faire les montages, les décryptages, aller chercher, etc. Et donc si progressivement on arrive à avoir ces boîtes à outils qui nous permettent d'avoir des situations typiques, globales, comme l'a dit Guillaume, qui posent problème, qui indiquent quels sont les dilemmes de métier sur lesquels les formateurs ont à travailler, cette banque d'outils, à condition qu'on la prenne bien, et moi je partage tout ce que tu as dit sur les continuums, plus, enfin voilà, les processus plus que les étapes, etc. Il me semble qu'on peut être aussi dans une logique où on réinterroge profondément, où on réoutille profondément le modèle de formation. Je rappelle que moi, mon expérience, c'est que dans la formation de formateurs, par exemple du second degré, on dit à des gens, tu vas être formateur parce que tu es un bon enseignant. Et après, on les lâche à faire de la formation avec des gens sans qu'ils aient aucune expérience de ce que c'est former des adultes, quoi. Et la bascule entre être un bon prof et former des enseignants est souvent quelque chose de très brutal. Donc pour moi, Neopass, c'est aussi et en même temps un outil pour repenser les métiers de la formation dans notre champ, quoi. Est-ce que quelqu'un... Alors, Françoise, éventuellement, ce qui se fait à Lyon 2 sur l'analyse du travail, comment est-ce qu'avec les M1 et les M2, ils rentrent déjà dans cette activité avec Françoise Lantôme et Françoise Carreau?
Oui, j'explique. Patrick pourrait expliquer aussi bien que moi parce qu'il est dans le dispositif. Mais donc, justement, on a aussi à Lyon 2 monté un master pour qui s'appelle métier de l'enseignement scolaire, de la formation et de la culture, et qui est en fait destiné à ceux qui veulent devenir PE, en sachant quand même que bien peu d'entre eux deviendront PE, réussiront le concours. Mais bon, ils sont dans ce master-là. Et en M1, on a proposé, enfin, c'est Françoise Lantôme qui a mis ça dans la maquette et ça a été adopté comme ça. Il y a un TD qui s'appelle Analyse du travail et polyvalence. Et tous les étudiants de M1 font ce TD qui dure 21 heures, qui se situe au second semestre. Au premier semestre, ils ont des stages d'observation et stages de pratique accompagnée. Et ils en ont surtout au second semestre, stages de pratique accompagnée. Et donc, on essaye de penser ce TD. On est en train de l'organiser. Hein, et donc, Patrick va travailler aussi avec nous là-dessus. Justement, pour leur donner déjà des éléments simples, mais des éléments quand même structurants, conceptuels sur c'est quoi l'activité, justement, c'est quoi l'analyse de l'activité, c'est quoi l'analyse du travail, leur montrer que c'est quelque chose aussi qui se fait dans d'autres métiers que dans le métier enseignant, et comment le métier enseignant est aussi un métier comme un autre, d'une certaine manière, tout en ayant sa spécificité. Et donc, on va leur donner ces éléments-là, tout en travaillant, en leur demandant de ramener de leur stage de pratique accompagnée, justement, des matériaux sur lesquels nous travaillerons aussi à partir de ce cadre de conceptuel. Donc, on est vraiment dans cette approche où, effectivement, ils sont pas en stage de responsabilité, ils seront peut-être pas jamais PE en plus, hein, ils sont M1, mais ils s'initient quand même à une lecture du métier, peut-être pas à une activité du métier, mais à une lecture, à une compréhension du métier, et on pense que c'est formateur pour eux, même si en sachant justement en M2 ils ont des stages en responsabilité et là ils ont de l'analyse de pratique qui est faite d'une autre manière. Voilà un petit peu pour...
Juste pour dire un mot en parallèle à ça, nous on s'amuse à l'IUFM d'Auvergne à leur proposer des vidéos, vidéos de PE, on travaille ça avec le premier degré, on leur propose une vidéo où on montre une débutante en train de faire un cours, et on arrête la vidéo, et on prend le papier, on leur distribue des papiers, et où on leur propose des suites possibles à cette activité. Et on leur demande de dire... qu'est-ce qui vous paraît probable comme suite possible à cette activité ? Voilà. On essaye de les préparer quelque part à une lecture de l'activité pour essayer de les familiariser avec la façon dont le cours peut se dérouler, dont le cours peut être conçu. Et donc, une fois que la vidéo est terminée, ils ont 7 scénarios possibles de suite et ils doivent dire... pour chacun des scénarios, s'ils pensent que c'est très probable que ce soit celui-là ou pas du tout, et ils doivent justifier par des éléments de connaissance qui sont des éléments de connaissance qui sont issus d'autres cours. Par exemple, lorsque vous êtes sur un petit atelier motricité, vous pouvez arrêter la vidéo et dire est-ce que ça va donner lieu à un temps de collectif à partir de ce moment-là où ils ont fait des activités, ils sont passés dessus, dedans, dehors, etc. Ils ont fait des petites activités de ce type-là. Et vous pouvez quelque part essayer de voir quels arguments ils mobilisent pour se dire cette suite-là est probable. Cette suite-là est probable parce que des élèves de cet âge-là sont susceptibles de faire ce qui est prévu dans le scénario que vous me proposez. Cette suite est possible parce que elle a fait ça juste avant. Donc on peut penser que ça va être réutilisé juste après. Vous voyez, on essaye de les familiariser avec une analyse des situations tout en sachant qu'on va pas pouvoir travailler avec eux sur la réalisation. Donc c'est vraiment sur le pôle de l'analyse comme tu dis... Tu l'as dit, Françoise.
Pour ceux que ça intéresse, cette histoire-là, Elisabeth Fittner, qui travaille à Potsdam, elle a écrit un bel article là-dessus. C'est une technique qu'elle utilise à partir uniquement de matériaux écrits qui décrivent la classe. Vous savez, comme le petit jeu où on déplie là ce qui va se passer après. Et elle fait tout un TP à Potsdam uniquement avec les 3 premières lignes du cours. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, comme quoi la vidéo n'est pas... Enfin, voilà.